France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un écrivain, philosophe qui publie Une brève éternité sous titre Philosophie de la longévité. C'est chez Grasset, amis auditeurs. Vous avez la parole, vous le savez, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application de France Inter. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour.
Ce livre est doux, ce livre fait du bien. Peut-être particulièrement à un lecteur qui tutoie la cinquantaine, je le mets sur la table en tout cas pour commencer. C'est une méditation sur un âge particulier de la vie, passé les 20, 30, 40 ans, ces décennies si légères qu'elles passent dans l'insouciance, sans même avoir le sentiment que le temps existe. Mais à partir de 50 ans, que se passe-t-il, vous demandez-vous? Que reste-t-il à vivre? Vous dédiez ce livre, je vous cite, à tous ceux qui rêvent d'un nouveau printemps en automne et souhaitent repousser l'hiver au plus loin dans les saisons de la vie. Pourquoi vous êtes-vous donc intéressé, Pascal Bruckner, à cet âge où commence la brièveté de la vie?
Ah, c'est un vieux projet que j'avais repoussé. Pour des raisons de superstition, je me suis dit, si je parle de l'âge, on va tout de suite me qualifier d'homme âgé. Et puis à un moment, on peut plus reculer parce qu'effectivement, on le devient. Et j'ai voulu bousculer un lieu commun qui assimile les âges au-delà de 50 ans à une sorte de perte, à une chute dans le temps, à un amoindrissement de l'existence. Et si vous me permettez une petite anecdote personnelle, quand j'ai eu 60 ans, je venais de déménager, je sortais d'une rupture amoureuse, et en triant les affaires, je me suis effondré en larmes. Et je me suis dit, ma vie est finie, c'est terminé. Un ami m'appelle et me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, ben écoute, voilà, j'ai 60 ans, ben, conclusion, le rideau tombe. Et il me dit, mais imagine-toi dans 10 ans. 10 ans plus tard, j'y suis maintenant. J'ai passé une décennie merveilleuse. Et effectivement, le miracle de notre époque, car je pense que c'est un miracle, c'est que nous avons réussi effectivement à repousser la vieillesse au plus loin. Nous vieillissons tous, mais il faut se souvenir que la vieillesse commençait il y a un demi-siècle, commençait à 55-60, et j'ai vu mes propres parents, dès qu'ils ont accédé au milieu de leur vie, endosser ce costume de la vieillesse. C'est-à-dire qu'ils se sont installés dans un état pour ne plus en sortir, ils se sont interdits un certain nombre de choses, tout simplement parce que la convention devait adosser le comportement sur l'âge biologique.
Vous allez nous expliquer pourquoi il faut renoncer à la sagesse, à la soi-disant sagesse de la vieillesse dans un instant, mais vous citez, et ce sont les premières pages du livre Le Monde d'hier de Stefan Zweig, qui raconte la Vienne de la fin du 19e siècle, qui tenait la jeunesse en suspicion. Il fallait paraître plus âgé, commencer à vieillir dès l'adolescence. Endosser dès 20 ans le costume de la vieillesse était la condition sine qua non de la réussite. On peut dire qu'aujourd'hui la situation s'est totalement inversée puisque la jeunesse est devenue la vertu cardinale. Les vieux veulent rester jeunes, être des adolescents, des quinquados, des sexygénaires comme vous les appelez dans le livre. Qu'est-ce que cette inversion des valeurs dit de la société?
Ben, elle dit une chose simple, c'est qu'il y a une notion qui a disparu et qui était prédominante au moment de l'Empire austro-hongrois en Autriche comme en France, c'est la maturité. Le mot adulte n'a plus beaucoup de sens, on l'utilise que pour les films. Film pour adulte, c'est-à-dire film porno, mais sinon, personne ne dit de son enfant, il est devenu un adulte. On dit, j'espère qu'il va rester jeune. Donc il y a une inversion complète, je pense que ça date de la guerre de 14, qui a vu le sacrifice de générations entières. Et pour nous, la jeunesse est l'âge par excellence de l'intelligence, du génie, du rebondissement possible.
Et, n'est-ce pas le cas?
C'est le cas, mais ce qui a changé, c'est que cette jeunesse, nous la prolongeons au-delà des limites autorisées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère avoir l'air jeune que d'avoir l'air d'un croulant. Et c'est dans les années 50-60, déjà on disait t'es plus dans le coup papa. Enfin, c'est tout le mouvement yéyé. On voulait pas avoir l'air d'un croulant. On voulait vraiment rester branché sur le tempo de l'époque. Et ça n'a pas changé. Et en venant ici, j'ai vu une grand-mère en trottinette qui emmenait ses petits enfants à l'école. Vous voyez, l'été, c'est très frappant. Cet été où il a fait très chaud, je n'ai jamais vu autant d'hommes âgés en short. C'était inconcevable même il y a 10 ans. Tout le monde exhibe ses jambes un peu noueuses ou cagneuses sous le regard des autres sans aucun complexe. Donc, parce que il faut il faut surtout pas avoir l'air de faire son âge.
Donc votre livre, on le comprend et on vous entend, ça n'est pas vivez la jeunesse éternelle, ça n'est pas viser la jeunesse éternelle. Non, vous dites qu'il y a une beauté, une profondeur, un bonheur dans ce que vous appelez, l'été indien de la vie, comme s'il s'agissait de réenchanter la maturité, c'est ça ?
Voilà, c'est-à-dire que la science, la médecine nous accorde un sursis. Et ce sursis, c'est 25 à 30 ans de vie gagnés par rapport au début du XXe siècle. Et ce sursis n'a pas été pensé, imaginé, ni par les politiques, ni par les philosophes, parce qu'il est nouveau, parce qu'il est en quelque sorte apparu depuis 40 ou 50 ans. Et donc, on met des gens à la retraite, assez jeunes, et ils ne savent plus exactement quoi faire de leur vie. Donc, qu'allons-nous faire de ces 20 ans de vie supplémentaires que nous avons gagnés, et que nous ne pouvons pas passer simplement dans le loisir, dans la consommation, à regarder la télévision,
vous
à voyager.
Vous fustigez d'ailleurs la société du loisir. Vous dites le salut passe par le travail. Et à l'heure où on parle, on débat de la retraite, de la réforme des retraites qui arrive, de l'allongement de la durée de cotisation ou de l'âge de la retraite, vous dressez un tableau sinistre de la retraite. Vous citez Victor Hugo, le plus lourd fardeau, c'est vivre sans exister. Vivre sans exister, c'est pour vous une définition de la retraite ?
Ben, c'est un risque. C'est un risque si on prend la retraite comme l'arrêt brutal de toutes les activités. Moi, je vois autour de moi un certain nombre d'amis qui sont passés à la retraite et qui sombrent dans une dépression profonde parce que le travail, c'est pas simplement les contraintes horaires, l'obligation de subir les humeurs d'un patron ou d'un chef. C'est aussi le lien avec les autres. Travailler, c'est s'engager dans un certain nombre de relations avec des collègues et imaginer la situation d'un couple. C'est une histoire qu'on m'a racontée il y a peu. L'homme et la femme cessent de travailler au même moment. Ils se quittaient tous les matins pour aller au boulot. Ils se retrouvent maintenant en face à face. Qu'est-ce que ça crée ? Une explosion des divorces entre 50 et 60 ans, ou 60-70 ans, comme il y a une explosion des divorces entre 20 et 30 ans, tout simplement parce que va-t-on faire de ce temps-là ?
Et donc parfois, ça se passe merveilleusement bien. On a une deuxième vie qui commence et la société des loisirs est un plaisir et on voyage et on lit, on a le temps de contempler.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que si on considère que la retraite, c'est le moment où on va cesser de faire, de travailler ou de s'engager dans le monde, on va être très malheureux. Ce qu'il faut, c'est imaginer effectivement une activité pour ceux qui ont passé cette limite et qui doivent rester présents dans le monde, c'est-à-dire qu'ils doivent rester des acteurs. Sinon, le risque, et ça a été souligné par de nombreux sociologues, c'est de dresser les jeunes générations qui se disent « Nous, on travaille pour entretenir ces vieux oisifs ».
Mais vous avez tout de même, Pascal Bruckner, une approche esthète ou dandy de cette question-là. Vous citez Clint Eastwood, octogénaire, Edgar Morin, 98 ans, Manuel de Oliveira, qui faisait des films passés 100 ans. Ces gens-là ont le privilège de faire ce qu'ils aiment. Il y a un certain nombre de Français qui arrivent épuisés à la retraite, parfois même cassés, et qui n'ont qu'une envie, c'est de se reposer, de tourner cette page-là. Donc, ceux-là, on ne les voit pas dans votre livre.
Ça peut être une posture de classe, que vous dites.
Alors, je savais qu'on allait me faire cette objection. D'abord, la démocratie, c'est l'accès à tous des privilèges réservés à quelques-uns. Donc, c'est ça, en principe, la définition d'une démocratie.
Vous savez bien que ça ne marche pas.
Pour les gens qui sont fatigués par leur travail, évidemment, il ne faut pas bousculer cette conquête sociale. Mais pour beaucoup d'autres, et même pour une majorité d'autres, la retraite, c'est une mise au rebut. Ils se sentent périmés. Je regardais, pas plus tard qu'hier soir sur France 2, une dame qui était vendeuse dans une boulangerie qui disait « J'ai vécu ma retraite comme une catastrophe, pas simplement parce que mon salaire a baissé, mais parce que je me suis retrouvé seul chez moi, inutile. » Donc il faut aussi penser à cela. Et repeindre la retraite aux couleurs de l'enchantement, c'est oublier que elle est souvent la conjonction de deux phénomènes, le vieillissement et la diminution de la rémunération. Par conséquent, il faut repenser les conditions sociales et politiques de cette troisième vie ou de cette quatrième vie.
Il faut aussi penser les gens qui ont travaillé de leurs mains, qui ont usé leur corps, qui
bien
se sont
sûr.
Usés physiquement, ce qui n'est pas
bien
votre
sûr.
Cas, Pascal Bruckner.
C'est exact, ni du vôtre.
Non, non, non.
Mais je pense qu'ils sont peut-être une minorité aujourd'hui en France et que pour une majorité de Français, il faut continuer à avoir une activité. Il ne faut pas que les gens s'installent dans une salle de repos éternelle 30 ans avant leur disparition. Sinon, on va créer une génération de gens très malheureux.
Vous étayez cela en citant les gilets jaunes, ces seniors, dites-vous, ces seniors qui ont résisté sur les ronds-points, ces anards aux cheveux blancs qui ont retrouvé pour quelques mois un sens à la vie, une utilité. Durant ce mai 68 pour retraiter, c'est comme ça que vous appelez la crise des gilets jaunes, durant ce mai 68 pour retraiter, ils sont sortis du cauchemar du désœuvrement obligatoire.
Ben bien sûr, ils l'ont dit. Hein. Tous les reportages qu'on a vus sur les gilets jaunes, c'était des gens souvent assez âgés, aux cheveux blancs ou aux tempes grises, et qui plutôt, je me souviens très bien, il y avait une interview, plutôt que de s'abrutir devant la télé, cette tisane des yeux, se sont retrouvés entre eux le soir, passaient des nuits entières à discuter, à refaire le monde. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, mais en tout cas je pense que ça a été la réintroduction d'une population oubliée, invisible dans le jeu politique, et donc ça signe quelque chose quand même sur cette catégorie de Français qu'on a tendance à dire ils sont à la retraite, donc on ne doit plus les entendre.
Pascal Bruckner, vous consacrez de longues pages de votre livre à l'amour, à la séduction, au plaisir sexuel. Pourquoi l'idée qu'on puisse vivre tout cela au-delà d'un certain âge semble-t-elle aujourd'hui encore si scandaleuse ?
Ah ben moi, elle m'a semblé scandaleuse jusqu'à ce que j'atteigne cet âge en question. L'idée que nos aînés ou nos parents puissent avoir une vie amoureuse, une vie passionnelle, une vie sexuelle est absolument insupportable. Et la vieillesse est une utopie, à mon sens, totalement fausse. C'est l'idée qu'à partir de 60 ans, la paix des sens va descendre sur nous.
Oui, vous dites surtout pas.
Ben voilà, oui. Surtout pas, ben c'est faux, pas simplement la paix des sens, mais simplement la paix du cœur, qu'au fond on va...
On est débarrassé des tourments.
Oui, c'est ça, mieux vaut le tourment fécond que le bien-être fade.
Ben oui, bien sûr, sinon on s'ennuie dans un tête-à-tête avec son conjoint ou sa conjointe, et on s'aperçoit que à cet âge-là, les turbulences du cœur sont aussi fortes qu'elles le sont à 20 ans, avec cette nuance fondamentale, c'est qu'on n'a pas le droit de les exprimer. C'est-à-dire que la personne âgée est supposée avoir été dépouillée à tout jamais de l'aiguillon du désir, ce qui là aussi n'est pas vrai. Et puis l'apparition, il y a une vingtaine d'années, du Viagra et des traitements hormonaux pour les femmes prouve qu'effectivement les gens veulent exister pleinement dans leur corps et ne pas renoncer à ce qui fait quand même le plaisir de la vie, c'est-à-dire à la fois l'enchantement charnel et aussi l'enchantement romantique.
Même s'il est aidé par une substance chimique.
Ben, de toute façon, le corps est une série de processus chimiques. Oui, alors on sait très bien que ces pilules miracles ne marchent que si le désir est là. Mais au moins, c'est une sorte d'aliment, de soutien, lorsque le corps ne répond pas tout à fait à l'appel de la nature, si j'ose dire.
Vous citez Jane Fonda qui disait il y a quelques années « J'ai 74 ans et je n'ai jamais connu une vie sexuelle aussi épanouie ». Vous citez Madonna aussi qui pose seins nus à 60 ans et qui se prend une volée de bois vert et des réactions odieuses en disant « À 60 ans, tu montres pas tes seins ». Vous dites d'ailleurs que c'est plus difficile, bon c'est un peu une tarte à la crème mais c'est la vérité, c'est plus difficile pour une femme de vieillir que pour un homme.
Bien sûr, c'est encore une inégalité flagrante. Il y a à peu près 10 ans d'intervalle entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que le couple Brigitte-Emmanuel Macron est un couple tellement symptomatique, qui suscite tant de réactions violentes dans le monde. Parce que là, je trouve que symboliquement, le couple présidentiel a brisé un tabou. Et que les 25 ans de différence entre Emmanuel et son épouse... Il me semble que c'est là la vraie nouveauté du quinquennat, en dehors de ce qu'on peut penser de l'action présidentielle.
Mais vous dites la modernité de la Macronie, c'est ça.
Oui, symboliquement, c'est ça.
C'est la différence d'âge.
Oui, c'est ce qui m'est apparu immédiat. Et si cette différence d'âge était passée si facilement, il n'y aurait pas, en Amérique latine ou ailleurs, des réactions aussi violentes. C'est que là, il y a un tabou qui se fissure. Et effectivement, on va voir de plus en plus, me semble-t-il, des femmes d'un certain âge avec des hommes plus jeunes. Je cite un certain nombre d'exemples. Colette, Marguerite Duras. Donc, alors, ça fait partie, comme disait Nicolas Demorand, des privilégiés. Mais les privilégiés ont ceci de particulier, c'est qu'ils ouvrent la voie aux autres. C'est l'élite qui donne le « là ».
Avant de donner la parole aux auditeurs, il y a un passage dans votre livre qui nous a beaucoup touchés avec Léa. Léa là, se lève en studio et a la gentillesse de vous apporter le livre pour que vous nous en fassiez lecture, Pascal Bruckner. Ça parle d'amour.
L'amour à tout âge nous réveille, nous justifie d'être. Je deviens créateur de l'autre en le chérissant comme il me recrée à son tour. Citation. Dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est lui dire « tu ne mourras point ». Fin de citation. Admirable sentence de Gabriel Marcel. Aimer, c'est aussi se réjouir que l'autre existe et se réjouir d'être encore vivant pour le lui dire chaque jour. On n'est jamais trop de deux pour goûter la douceur de vivre, sauver la succession des jours de la gratuité, transfigurer le bégaiement perpétuel du quotidien. Qu'as-tu fait aujourd'hui ? Quasi rien, mais ce peu de choses n'est pas le même si je peux le détailler avec toi ou si je dois le ruminer à voix basse dans la solitude.
Dire je t'aime, c'est dire à quelqu'un tu ne mourras point.
Oui, alors ça c'est une phrase extraordinaire que j'avais déjà citée dans un livre précédent. Gabriel Marcel est aujourd'hui totalement inconnu, c'est un existentialiste catholique qu'on m'avait enseigné quand j'étais chez les Jésuites à Lyon. Mais effectivement, c'est-à-dire que la splendeur de l'amour, et à tout âge, c'est de nous arracher à la gratuité de notre existence. C'est-à-dire que au fond, notre existence n'a aucune valeur par elle-même, et si nous pouvons la raconter même dans ses détails les plus insignifiants à une personne aimée, elle reprend tout d'un coup du prix et de la valeur.
On file au standard, Pascal Bruckner, où nombreux auditeurs nous attendent et ont envie de dialoguer avec vous. Je salue Colette, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur de Mouron, bonjour France Inter.
Bonjour que Madame.
Je l'apprécie tous les jours.
Merci
et
beaucoup.
Bonjour Monsieur Bruckner, bonjour. Dont j'ai lu pas mal de livres. Je suis pas du tout d'accord avec lui quant à la vision idyllique de la vieillesse. J'ai moi-même 83 ans et je puis vous dire que ce n'est pas une sinécure. Il y a d'abord des problèmes de santé, des problèmes d'entourage, et je suis encore parmi les privilégiés qui n'aient pas des problèmes d'argent. Donc, l'amour à 83 ans, je vous avoue que c'est pas terrible, hein. Mais malgré tout, il y a des choses quand même qui sont vraies. Par rapport à mes parents, je vis beaucoup mieux ma vieillesse, c'est vrai. Mais non, ça n'est pas facile. Profiter de votre jeunesse, bon sang. Je le dis à tous les gens que je rencontre.
Hein. Merci beaucoup, Colette, de le dire aussi aux auditeurs de France Inter et à Pascal Bruckner qui veut peut-être vous répondre.
Oui, alors je n'ai pas du tout une vision idyllique de la vieillesse. Je dis que nous avons gagné 20 à 25 ans de vie entre la grande maturité et la vieillesse. Mais je ne nie pas, je ne commets pas l'absurdité de nier tout ce que la vieillesse a de triste et d'atroce. Simplement, je dis que la force de notre société, c'est d'avoir reculé cet âge au-delà peut-être des 80 ans, mais je connais autour de moi des gens qui ont votre âge, madame, et qui ont connu le miracle d'une vie amoureuse réelle. Une anecdote, vous l'avez peut-être vu dans la presse, cet homme de 83 ans qui, dans le bus, rencontre une femme du même âge, ils se parlent, ils ont tous les deux un cancer, il descend, il se dit « j'ai été fou, j'ai oublié son adresse ». Il placarde des affiches partout, il appelle la RATP, il la retrouve. Donc vous voyez, le coup de foudre amoureux peut arriver au-delà de 80 ans. Donc
oui, ce fut comme une apparition voilà, dans ce bus-là.
Voilà, je profite de ma jeunesse, mais je ne désespère pas non plus de la vieillesse.
Georges est en ligne. Bonjour et bienvenue. Vous nous appelez de Paris, Georges.
Oui, bonjour à tous. Bonjour France Inter. Moi, le fidèle auditeur. Moi, le senior de 68 ans qui s'éclate, qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup ennuyé à travailler. Et maintenant, je m'éclate. Pourquoi je m'éclate ? Parce que, contrairement à ce que dit M. Bruckner de façon très boutique, il parle d'amour. Mais faut pas parler. C'est bien l'amour, mais les vieux s'emmerdent un peu en termes d'amour. Il faut parler de sexe. Le sexe est vachement important chez les vieux.
Ah ben je vous rassure, il en parle beaucoup hein, dans le livre.
Oui, mais du sexe dans le cadre du couple. Le sexe n'est pas forcément dans le couple. Au contraire, il faut de la fantaisie. Il faut varier, etc. Donc je trouve que M. Bruckner est un peu conventionnel pour l'ex-68ard qu'il était. Et moi, je revendique l'art de glander, de ne rien faire, de ne pas forcément s'engager
et de faire l'amour.
Nouvelles obligations.
Et de faire l'amour, donc, Georges, si on vous a bien
compris. Absolument, dans tous les sens.
Merci.
Et je vous embrasse tous.
Bah, nous aussi, on vous embrasse très fort,
Georges. Vous seriez conventionnel, Pascal Bruckner.
Ah, bah, écoutez, oui, je suis content d'être enfin qualifié de conventionnel, mais je suis assez d'accord avec monsieur. Ceci n'exclut pas cela. On peut à la fois glander, faire l'amour dans tous les sens et malgré tout être amoureux. Ça n'est pas incompatible. Donc voilà, je ne suis pas en désaccord avec monsieur.
Geneviève est en ligne. Bonjour et bienvenue. On vous écoute, Geneviève.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, je voudrais savoir si monsieur Bruckner ne pense-t-il pas que à partir de 50 ans, il y a quand même il y a une prise de conscience de l'importance de notre corps, c'est-à-dire que on éprouve peut-être plus le besoin de le faire un peu réviser pour justement aller aller plus loin, hein, et être en bonne santé. Et puis il y a aussi peut-être une ouverture à une sorte de spiritualité, puisque ben puisqu'on sait que on s'approche aussi ben, de la mort. Donc voilà, je pense qu'il y a, est-ce qu'il pense qu'il y a quand même cette au niveau du du corps physique et de l'esprit quelque chose qui se fait là, quoi.
Merci pour cette question. Pascal Bruckner vous répond.
Bien sûr, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais à partir de 50 ans, c'est le corps qui commande. Jusque-là, il était une sorte de compagnon qu'on pouvait violenter. Il se rétablissait malgré tous les excès qu'on pouvait faire. Et à partir de 50 ans, si on n'écoute pas son corps, c'est lui qui va vous condamner. Et en ce sens, on peut dire que la maladie est aussi le salaire de la longévité. Plus on avance en âge, plus on risque de tomber malade. Et vous avez raison, les personnes au-delà de la cinquantaine ou de la soixantaine sont comme des vieilles berlines élégantes qu'il faut réparer, dont il faut refaire la transmission, les freins. Le miracle de la médecine, encore une fois, c'est qu'elle nous permet de repartir d'un bon pied.
Donc contrairement à d'autres, vous trouvez que les femmes de 50 ans restent désirables?
Alors d'abord, pour moi, une femme de 50 ans, elle est jeune. Et puis je pense qu'il ne faut pas se pousser du col. Il faut rester très délicat dans le domaine amoureux. Parce que, surtout quand on n'est pas un Apollon, c'est le genre de phrase qu'il faut éviter de dire en public. On peut le penser, mais moi je ne l'aurais jamais dite. Mais pour ce qui est de la vie spirituelle, ce qui est vrai, c'est qu'à partir d'un certain âge, on a le goût de la méditation, de la nature, des choses spirituelles, mais cela n'empêche pas de rester engagé dans la cité et de rester des êtres de chair et de passion. Je ne crois pas à la sagesse de la vieillesse. Les personnes âgées ne sont pas sages, elles sont tout comme nous agitées de pulsions, tout comme les jeunes agités de pulsions contradictoires, et il faut le reconnaître.
Deux questions d'actualité, disons, Pascal Bruckner. Vous avez critiqué dans une tribune au Figaro la jeune Greta Thunberg, et je vous cite cette égérie de la contestation qui affiche son Asperger comme un titre de noblesse avec un visage terriblement angoissant. Vous la comparez, je vous cite encore, à l'enfant star Jordi qui en 1992, à l'âge de 4 ans, devint célèbre grâce à une chanson dur d'être bébé. Est-ce que vous regrettez ces mots, Pascal Bruckner, avec tout le respect que je vous dois, mais puisqu'on est en train de parler d'âge, tous ensemble avec les auditeurs d'Inter depuis 8h20, puisqu'on parle donc d'âge ce matin, est-ce que ça n'est pas de votre part le signe d'une vieuconisation de l'esprit?
Alors, non seulement je ne regrette pas, mais je les signe et les contresigne ces phrases. Je pense que le cas Greta Thunberg est le symptôme d'une interversion des générations. C'est-à-dire que nous extasions devant une jeune fille qui ne fait que reproduire des mots qu'on lui a mis dans la bouche. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un effet perroquet.
Elle ne pense pas. Elle répète.
Ah ben elle répète. Moi, je préfère écouter les gens du GIEC qui eux ont des arguments sérieux que Greta Thunberg. Mais bonne nouvelle, j'ai lu hier dans Libération sous la plume de Luc Levaillant que Greta Thunberg avait souri lors de son arrivée à New York. Donc je pense que
c'est
même chez ces jeunes filles,
c'est pas un peu facile. Ce que vous faites là,
non,
on
non,
l'entend et dans votre bouche, dans d'autres, etc. Yannick Jadot disait on en fait peut-être trop sur Greta Thunberg, elle-même en fait trop.
Si même lui
certainement, mais là, le fond de son combat, pourquoi ne pas reconnaître la dignité de son combat? Et je dirais sur l'urgence écologique, après moi le déluge, est-ce que c'est pas un trait typique pour le de votre génération?
Exactement. Alors je n'ai jamais dit après moi le déluge, je suis tout à fait d'accord avec l'urgence écologique, je pense qu'elle est la mauvaise héroïne et que par conséquent elle starifie un combat qui doit rester le combat de tous. Donc j'espère que d'autres jeunes se lèveront, qui n'auront pas forcément la dramaturgie de Greta Thunberg. Mais je ne change pas un mot de ce que j'ai dit sur elle.
Dans le dossier de presse, autre question d'actualité qui accompagne le film J'accuse de Roman Polanski, vous lui demandez la chose suivante, je vous cite, en tant que juif pourchassé pendant la guerre, que cinéaste persécuté par les staliniens en Pologne, survivrez-vous au maccartisme néo-féministe d'aujourd'hui? Rien que ça, Pascal Bruckner, n'avez-vous pas là l'impression de tout mélanger et de comparer l'incomparable.
Non, mais je pense que dans le cas de Polanski, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que Polanski a commis une faute gravissime, qu'il a reconnue, il a fait de la prison. Il a fait un deal avec le juge et le procureur de l'État de Californie, deal qui a été brisé par le juge lorsqu'il a vu une photo de Polanski en Bavière. Et depuis, Roman Polanski est pourchassé en permanence par les médias. On l'accuse d'avoir violé des dizaines de
mais
femmes.
C'est la comparaison.
Nazisme, stalinisme, féminisme.
Pourchassé par le nazisme, pourchassé par les féministes, sur le même plan, franchement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un homme qui ne peut plus sortir dans la rue, ne peut plus aller dans les pays étrangers à part la France et la Pologne. Et je trouve que sur ce plan-là, cette espèce de chasse aux sorcières qui s'est organisée autour de lui comme autour de Woody Allen ne doit pas avoir lieu en France. Et je suis heureux que mon pays ait abrité un des plus grands cinéastes contemporains.
Pascal Bruckner, Une brève éternité, philosophie de la longévité, est le titre du livre donc que vous publiez en cette rentrée chez Grasset. Merci d'être venu en parler
à vous.
Et bon conseil.
Sur France Inter, 8h47.